OK, oui, on en jase à Boulevard 102.1, ton émission du midi. Il est présentement midi pile. Vous sortez de l'excellente émission Le Point de Max avec Max Larouche. Et là, si on en jase avec Jeff Fortin. Et un invité spécial que vous entendez quelquefois à Boulevard. Il fait les retours à notre station sœur de Weekend 91.9. Il est dans ma famille.
Oui.
Marié avec ma cousine. Donc, c'est une émission familiale. Je suis tellement content d'être avec toi, mon chum. Nathan Meilleur, comment ça va?
Ça va très bien. Cool. Mais je vais te demander une affaire en partant, par exemple.
Ah ouais, donc?
Faut que tu arrêtes de dire que je suis marié avec ta cousine.
T'es pas marié?
Parce que je suis pas marié, puis à chaque fois qu'elle entend ça, ça me met énormément de pression.
Oh, parfait! Il est conjoint de fait avec ma cousine.
Oui,
Sarah,
voilà.
Sarah, Nate, il met pas de pression. Nate.
Je pense que c'est officiellement le show le plus familial à Leclerc Communication,
ouais,
outre le fait que c'est une entreprise familiale.
C'est une entreprise familiale, voilà. Donc on dit on va réunir la famille. Si on
incroyable.
Va les mettre ensemble en nombre,
c'est
vraiment plaisant.
Une première dans l'histoire. Très content de faire de la radio avec toi.
Ben, moi aussi, mon ami, très, très, très content. Et là, dans quelques secondes, tu vas embarquer dans un segment préféré des auditeurs, c'est-à-dire le segment du vendredi à midi, où on a un débat entre Farnel, Morissette, Lambert, Drainville. Deux gars qui n'ont pas la langue dans leur poche. Deux gars qui connaissent la politique sur le bout de leurs doigts. Deux gars qui ne pensent pas pareil, mais deux gars qui se respectent, qui vont prendre des bières ensemble. Qui s'apprécie.
Ça, c'est beau, ça.
Ça, c'est des débats sains.
Parce qu'on a de la misère à débattre ici. Hein?
Et l'enfer.
On a de la difficulté à débattre. Hein? J'entendais Yannick Marceau jaser de ça, puis j'ai déjà eu une bonne discussion avec lui de autant tu vas aller, par exemple, en Europe en voyage, tu vas souper à la table avec des Français, ça va s'engueuler, là, ça débat, puis à un moment donné, tout s'arrête d'un coup, ça trinque, chin-chin, parfait. Chaque parti a dit ce qu'il avait à dire. C'est correct. On n'est pas
pire ennemi.
On est capable de mettre fin à un débat sans qu'il y ait absolument un gagnant.
Oui.
On a simplement amené nos points, nos faits. Puis je pense que c'est un art qui s'est perdu un peu ici au Québec. Il faut absolument qu'il y ait un gagnant à tout prix.
T'as raison. Puis, j'irai au Québec puis en Amérique avec ce qui se passe aux États-Unis. Puis ça va faire partie justement d'un de nos sujets de débat avec Farnel et Lambert parce que on dirait qu'on cherche toujours à convaincre l'autre de notre vertu. Oui. Alors que moi, je m'efforce à dire qu'en politique, j'aime les idées différentes puis j'aime appuyer les idées différentes. Puis je vais te donner deux exemples concrets. Le Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Moi, je suis pour qu'on laissait ce système mixte-là en santé, de privé-public. Ça fait des années, puis encore cette année, que les urgences débordent. T'sais, je donne ça comme exemple, au Québec.
Ouais.
Donc, je suis pour qu'on fasse un test. Comment ça pourrait fonctionner, le fait qu'il y ait un hôpital d'un bord de la rue public, un hôpital privé de l'autre bord de la rue, puis que même le public, des fois, dise « Hey, sais-tu quoi? La liste d'attente est moins longue au privé, vas-y. » Puis ça va être le gouvernement qui va payer pour toi.
Ouais.
Parce que t'as la RAMQ. Moi, je suis pour qu'on essaie ça. De l'autre côté, avec le Parti conservateur du Québec, là, quand tu me parles de complotisme puis de pandémie qui n'a pas existé, je décroche.
Ben,
mais vois-tu, ils ont une bonne idée, là, je trouve, avec la mixité.
Je suis tellement à même place que toi. Tu sais, pour une des premières fois, on l'a essayé, nous, le privé, dans notre vie, ça a sauvé notre temps des fêtes. Les deux gars avaient des symptômes, étaient malades. Il n'y avait pas moyen d'avoir de rendez-vous nulle part dans des cliniques. On ne voulait pas se présenter aux urgences, évidemment, pour ne pas engorger les urgences non plus avec ça. On a rendez-vous super rapidement le matin même dans une clinique privée. Oui, on a déboursé. On a eu deux tests de streptocoque positifs. Deux heures après, on avait les antibiotiques, puis on était capable de fêter notre Noël avec la famille parce que 24 heures après, on était dans les délais. Comme l'exemple que je te donnerais, c'est les deux clans. Je comprends qu'il y a un côté économique par rapport à ça, mais moi, j'ai jamais compris pourquoi il faut être tramway ou troisième lien. Faut absolument se ranger d'un côté.
J'ai jamais compris pourquoi il faut être économie ou environnement.
Et voilà.
On peut-tu être les deux?
Pourquoi on peut pas? C'est parce qu'on manque d'écoute, en fait, Jeff. Je pense que c'est ça. Quand on débat, on veut tellement faire valoir nos points qu'on n'écoute plus ce que l'autre nous dit en face parce qu'on se prépare déjà à rétorquer, à répondre. Alors que des fois, quand t'écoutes, tu peux te rendre compte que l'interlocuteur en face, il y a peut-être des solutions auxquelles t'as pas pensé.
Ben oui. Puis pour terminer mon propos, je dis que j'aime les idées sur tout le spectre politique. Québec solidaire. Moi, là, qu'on donne à manger à tout le monde à l'école, là. Hey, let's go, là,
ben
ça
oui.
Presse, là.
Ben oui.
Avec un Québécois maintenant sur cinq qui a besoin d'une banque alimentaire. OK, voulez-vous me prendre une couple de millions de dollars qu'on va mettre dans des projets comme Nordvolt puis nourrir les enfants, s'il vous plaît? Ça, je suis pour à 100 %. D'un autre côté, quand on dit qu'il faut taxer les riches à 70 % en impôts, non, là, je décroche. C'est... Je crois pas à ça.
Oui, ben, il y aura pas grand débat entre nous deux, en tout cas.
Non, c'est
parce
ça.
Parce qu'on est d'accord sur bien des affaires.
Et voilà.
Déjà d'entrée de jeu. Fait qu'on va laisser les professionnels débattre.
Les professionnels débattre. Farnell Morisset, bon début d'année 2026. Comment vas-tu, mon chum?
Bon début d'année, ça va très bien. Moi, je suis pas marié à la cousine de qui que ce soit, mais je suis content d'être ici.
Excellent. Tu fais partie de la grande famille de Boulevard, Farnell. On lui a parlé mercredi dernier. Farnell, merci beaucoup pour lundi matin de t'être déplacé dans Marceau le matin que j'animais pour cette semaine en remplacement de Yannick. Marceau va être de retour lundi le 12 janvier, donc lundi qui s'en vient, lundi prochain, parce que tu nous as démêlé le Venezuela en 20 minutes.
Moi, c'est ce que j'aime.
C'est ce que j'aime de Farnell et Lambert, c'est des vulgarisateurs d'actualité, Nate. Ouais. Donc, tu sais, on a un sujet complet comme le Venezuela, puis Farnell, en 20 minutes, me l'expliquait, ce qui fait en sorte qu'après ça, je peux revenir chez nous le soir puis être l'homme le plus intelligent de la planète. Je suis capable d'expliquer le Venezuela.
Ça, c'est... T'as même pas idée, mon gars, comment t'es un outil, parce que moi, mon plus vieux, tu sais, les tiens sont un peu plus vieux que les miens.
Ouais, 16 et 18.
16 et 18. Moi, ils ont 7 puis 9, OK? Mm-hmm. Mais à 9 ans, étonnamment, le mien me pose beaucoup de questions.
Ah, ils savent ce qui se passe dans le monde, là.
C'est assez impressionnant ce qui se passe, puis t'as même pas idée, puis je profite de la tribune là pour te le dire, à quel point tu deviens le filtre. Parce qu'en t'écoutant puis en te regardant sur les réseaux sociaux, tu réussis à tellement bien résumer qu'après ça, moi, je pars de ton résumé pour faire mon résumé de papa.
J'adore ça.
Puis essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump, papa. Ouais. Expliquer ça à un enfant de 9 ans sans augmenter son stress, sans lui faire peur non plus. C'est vraiment pas simple, surtout avec ce qui se passe en ce moment là aussi. Là. Fait que non, t'es un excellent outil.
Ah, ben, je suis content d'être utile. Merci.
Oui, vraiment.
Et un autre vulgarisateur d'actualité exceptionnel, c'est Lambert Drainville, que j'ai eu la chance de connaître la première fois lorsqu'on a fait une soirée électorale ici même à Boulevard 101, la soirée électorale pour les élections fédérales, et qui est avec nous à chaque mercredi et vendredi. Lambert, ça va toujours bien, mon ami?
Ça va toujours bien. Excellent. Ça va mieux que plein de monde aux États-Unis. Laisse-moi te dire ça.
Hey, crème, oui. Et justement, on va se lancer avec les États-Unis. Deux sujets de débat aujourd'hui, de discussion, devrais-je dire. Dans quelle année folle on se lance aux États-Unis avec les élections de mi-mandat au mois de novembre et Donald Trump qui a commencé l'année 2026 en allant capturer Nicolas Maduro au Venezuela? Puis est-ce qu'on va avoir une année interminable en politique provinciale avec... On le sait, les élections au 5 octobre, mais on dirait que tous les partis sont déjà en campagne électorale au 9 janvier. On commence avec les États-Unis, on commence avec toi, Farnell. Je ne sais plus par où commencer. Le ICE a abattu une femme au Minnesota mercredi. Hier, jeudi, ont blessé deux autres personnes. On ne connaît pas encore l'état de santé. À Portland, en Oregon, on a capturé Nicolas Maduro. On veut mettre la main sur le pétrole vénézuélien. On veut acheter le Groenland. On ne sait plus où on se situe avec les États-Unis. Qu'est-ce qui va nous arriver dans la prochaine année?
Je pense que la première chose à garder en tête, et il faut se le rappeler, là, c'est que tout ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées historiquement. Mm-hmm. Il faut qu'on s'en rappelle. Ça fait un an qu'on a le deuxième mandat de l'administration Trump. On a peut-être l'impression que, ouf, comment on va toffer trois autres? Moi, je dirais, il faut peut-être juste attendre jusqu'en novembre. Parce qu'en novembre, c'est les élections de mi-mandat. Les élections de mi-mandat, c'est quand la Chambre des représentants au complet se fait réélire. Alors, tous c'est des élections générales pour la Chambre des représentants et un tiers des sénateurs aussi. Ce qui veut dire que la majorité actuelle du Parti républicain, qui est à toute fin pratique le parti de Donald Trump, dans la Chambre des représentants et le Sénat, est en jeu. Présentement, tout indique qu'il va perdre ses majorités au Sénat et à la Chambre, ce qui veut dire que son agenda législatif, sa capacité de faire passer des lois, va devenir beaucoup plus difficile. Mais ce n'est pas juste ça, parce qu'il y a beaucoup des pouvoirs actuels du président Trump, les pouvoirs qu'il utilise pour imposer des tarifs, des pouvoirs qu'il utilise pour aller chercher le président du Venezuela, des pouvoirs pour, par exemple, parler d'acheter ou d'annexer le Groenland. Tout ça, c'est des pouvoirs qui existent selon la Constitution des États-Unis. Ils existent, ils appartiennent au Congrès. Le président les a parce que dans le passé, on remonte quand même assez longtemps, le Congrès a délégué certains pouvoirs discrétionnaires au président, notamment pour lutter aux drogues, pour faire autre chose, pour ça que le président parle toujours de drogue. Mais si le Congrès décide de retirer ces pouvoirs-là du président, bien le président, il les a plus. Alors, il lui reste jusqu'en novembre pour avoir la capacité d'exercer les pouvoirs comme il fait présentement. Et après ça, ça va devenir beaucoup plus tough pour lui s'il perd les élections de mi-mandat.
Lambert Drainville, c'est quand même long jusqu'en novembre. Il y a plusieurs personnes qui craignent pour la démocratie aux États-Unis, je crois avec raison. Tu te situes où? Est-ce que ça va être une année de trop en politique américaine?
Ben moi, je pense que si tu me demandes mon avis, moi, il y a une année de trop déjà sous le capot. Là. Écoute, ce gars-là, il a été élu démocratiquement. Je pense qu'il faut toujours se le rappeler. Mais effectivement, Farnell fait bien de rappeler qu'il y a quand même certains contre-pouvoirs qui vont entrer en ligne de compte au courant de la prochaine année. La crainte que j'ai, moi, c'est qu'il trouve toujours un paquet de prétextes pour faire ce dont... ce qu'il veut, dans le fond. T'sais, il trouve toujours un paquet de prétextes pour ne pas respecter les lois, pour ne pas être redevable aux institutions. Et avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, on a vraiment l'impression qu'ils sont en mode « on va faire tout ce qu'on veut ». On a l'armée, notre propre armée, ben on a l'armée, premièrement, et notre propre armée en ICE, de notre côté, le système de justice aux États-Unis est de plus en plus influencé par le politique. Donc, tu as un gros effritement entre l'indépendance du système judiciaire. Alors, je vois ça aller et je trouve ça très inquiétant parce que ils ont vraiment l'air de plus en plus d'être en mode, ben, on va faire ce qu'on veut, puis ceux qui ne pensent pas comme nous peuvent aller se faire. Et ça, je trouve ça très inquiétant. J'écoutais J.D. Vance là, réagir à tout ce qui s'est passé au Minnesota. Écoute, là, c'est fou. Là, non seulement il aurait pu simplement laisser tout ce qui s'est passé passer justement et se dire ben, on va attendre les résultats de l'enquête, mais c'était pas assez. Là, il a fallu qu'il en rajoute une couche. Là, ils ont traité la dame qui est malheureusement décédée d'extrémiste, de gauche, de terroriste. Et ça vient des plus hautes sphères de l'administration. Alors moi, je suis un gars, tu le sais, Jeff, qui est généralement très optimiste. Ceux qui me suivent sur mes plateformes savent que j'essaie d'être...
Ben, c'est d'ailleurs ton style dans tes entrevues. On en a parlé avec l'entrevue de Pierre Poilievre mercredi.
Exactement. Mais je me surprends au quotidien à ne pas lire certains articles, à ne pas fouiller certains sujets, à ne parce que ça me fait, ben honnêtement, ça me fait peur un peu. j'ai pas envie de faire peur au monde, mais je serais curieux d'entendre Tarnel là-dessus.
Mais en fait, moi, je suis curieux parce que, justement, à mi-chemin entre ce que vous venez de dire, vous deux, le fait que ça fait peur, moi, Lambert, je suis à la même place que toi aussi. Je vais être bien honnête, je vais être bien franc, ça me fait peur, tout ça, puis on en parlera plus tard dans l'émission parce que ça fait en sorte que je suis bien mitigé sur des décisions que j'ai à prendre personnellement dans les prochaines semaines. Est-ce que d'ici le mois de novembre, avec l'administration qu'on voit actuellement, on sera en mesure de prendre des décisions qui feraient en sorte que même avec les élections de mi-mandat, on pourrait conserver finalement certains pouvoirs? Est-ce qu'on a le bras assez long pour aller jouer jusque dans la Constitution au moment où on se parle avec l'administration actuelle?
Je crois que ça va beaucoup dépendre de la population des États-Unis, en premier. Et je le dis, ça sonne quétaine, là, mais les gens des États-Unis aiment leur liberté. Les gens des États-Unis, quand tu leur montres un policier cagoulé qui arrive sans donner d'avertissement, essaie d'ouvrir la porte d'une femme qui conduit son véhicule et qui ouvre le feu, ils n'aiment pas ça. Puis t'as beau avoir un président puis un vice-président qui spin ça, qui attaque, qui dit que les policiers étaient des héros puis que la femme était une terroriste, ils ont toute la capacité de voir dans leurs propres yeux qu'est-ce qui s'est passé. Et puis c'est pas des gens stupides et c'est pas des... Oui, il y a peut-être une forte partisanerie, mais elle n'est pas aussi intense au point à être capable de camoufler la vérité quand elle est devant les yeux des gens. Alors, quand les gens, les électeurs vont agir, ils agissent à plusieurs niveaux. Oui, ils agissent aux élections de mi-mandat, mais ils agissent aussi, ils vont élire leurs représentants à l'État, ils vont élire leur gouverneur. Tous ces gens-là aussi ont des pouvoirs très forts. C'est faux à dire, là, mais si ça vient vraiment au pire, les gouverneurs des États ont des pouvoirs militaires. Ils ont des milices d'État à eux aussi.
Bien, c'est d'ailleurs, je t'arrête là-dessus, c'est d'ailleurs ce qu'on a appris avec le Minnesota, au Tim Walz dit « Parfait, moi, je vais la faire venir, la garde marine. » pour justement venir contrer le ICE qui est chez nous. Donc, c'est carrément une bataille. Puis là, je vais le mettre à la sauce canadienne, fédérale, provinciale.
Oui, c'est un peu ça qui s'enligne. Souhaitons tous que ça vienne jamais au point où tu as des milices de gouverneurs d'État qui commencent à échanger le feu contre j'hésite à appeler ça des forces policières parce que c'est pas ça. Là. ICE n'a aucune autorité policière. C'est une espèce d'autorité administrative. Mais en tout cas, que ça se mette à se tirer entre eux, ça va très, très mal virer très vite. Mais je pense pas qu'on va se rendre là parce que je pense que fondamentalement, peu importe ce que disent les personnes en position d'autorité, peu importe la rhétorique enflammée qu'ils utilisent, les Américains ne veulent pas se tirer dessus entre eux. J'y crois.
Est-ce que... Ouais, vas-y, Lambert.
Ouais, désolé, je vais pas interrompre personne.
Mais non, vas-y.
S'il y a un élément qui disons, en raison duquel je demeure optimiste, c'est les intentions de vote. C'est chaque fois qu'on voit des polls aux États-Unis, présentement, Trump a gagné en 2025 parce qu'il avait la réputation d'un gars qui est économiquement bien meilleur que dans le cas de Mme Harris. C'est très difficile pour lui présentement depuis plusieurs semaines au niveau des intentions de vote, particulièrement dans ces créneaux-là qui ont fait son succès au niveau de l'économie, puis au niveau de la gestion des frontières, au niveau de tout ce qui touche l'immigration. C'est vraiment deux dossiers qui ont fait, qui étaient grandement responsables de sa réélection. Et il commence vraiment à avoir de la difficulté. Il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, particulièrement les Américains dont son appui est toujours assez fort, évidemment, chez les républicains, mais chez les... disons, les indépendants, ceux, les swing voters, ceux qui changent de parti en fonction des enjeux du jour, ben c'est très difficile pour lui au niveau de cet électorat-là. Alors, s'il y a un élément qui me permet de demeurer optimiste et de penser qu'effectivement, comme le dit Farnell, au bout de la ligne, le peuple parlera, c'est celui-là. Alors, si on cherche un élément, une lumière au bout du tunnel, je pense qu'on en a une à ce niveau-là.
Rapidement, peut-être en 30 secondes, chacun de vous, les gars, est-ce que finalement, aux États-Unis, en attendant les élections de mi-mandat au mois de novembre, on peut s'attendre à une année qui va quand même être dans la normalité, c'est-à-dire qu'on ne verra pas de grands coups comme on a vu avec Maduro, ou ça va être une année teintée justement d'attaques envers le Groenland, d'attaques encore envers le Canada et ainsi de suite?
Je pense qu'on n'a pas vu la fin de ces choses-là. Je veux dire, regarde, considérez, il était où le monde il y a un an? Et penser à tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on va avoir une autre année assez rocambolesque, plein de gros moves. Je pense que l'administration Trump va faire des gros gestes pour essayer justement d'aller chercher des appuis là où ils peuvent avant les élections de mi-mandat. Ça risque d'être assez fou, en effet.
Lambert, qu'est-ce que t'en penses, toi?
C'est des gestes qui, justement, je parlais de sa popularité dans les intentions de vote. Ce sont des gestes qui lui permettent de ne pas parler, justement, tu sais, quand il y a tout ce qui se passe au Venezuela. Ben pendant qu'on parle de tout ça, évidemment, Trump n'a pas à répondre sur à quel point l'épicerie coûte de plus en plus cher, qu'il n'a pas à répondre à tous les enjeux.
On ne parle plus d'Epstein Files.
En effet.
Exact, on ne parle plus d'Epstein, on ne parle plus de tout ce qui se passe chez lui, domestiquement. Alors... moi, je m'arrange du même côté que Farnell. Je pense qu'on ne peut pas prévoir quelle sera la suite des choses, mais on peut s'attendre, je pense, à d'autres grandes surprises comme on en a eu un nombre absolument épouvantable là, dans la dernière année. C'est comme, je dirais qu'à chaque semaine, tu as une nouvelle affaire. Fait que je pense que ça risque de continuer comme ça, malheureusement.
Exactement. Plusieurs auditeurs qui écrivent au 418-971-1021 continuent à participer, qui nous disent justement qu'ils sont dans la même crainte et le même état d'esprit. Nathan Meyer, je te pose une question. Est-ce que François Legault va être le chef de la CAQ aux prochaines élections du 5 octobre?
C'est une bonne colle, ça. À l'écouter, lui, oui.
Ouais.
Moi, je pense que non.
Toi, tu penses que non? Tu penses qu'à un moment donné, la CAQ va dire « Hey, c'est assez 19 % d'un sondage, on essaie une nouvelle méthode. »
Je sais pas, en fait, comment il... Des fois, j'ai l'impression qu'il a engagé Mesmer. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans le caucus qui sont juste hypnotisés en ce moment, mais je ne comprends pas comment on peut poursuivre puis se ranger derrière ce chef-là. À quel point on a vraiment des convictions solide comme quoi la CAQ est vraiment actuellement la solution pour le Québec et on décide de poursuivre alors qu'il y a tellement de carrières qui sont en jeu en ce moment en continuant d'appuyer ce chef-là. Je trouverais ça bien étonnant que ce soit ce nom-là qui soit sur le petit papier quand on va aller aux urnes.
Écoute, je partage ton opinion à 100 %. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas des grands ténors qui réussissent à le convaincre et dire hey, « Regarde, écoute, on essaye quelque chose d'autre. » Parce que moi, j'ai bien beau briller. Puis là, je vais prendre l'exemple d'un Simon Jolin Barrette. J'ai bien beau briller depuis 8 ans. J'ai pas mal d'ombre sur moi. Et ça amène à cette deuxième portion du débat entre Lambert et Farnell. Puis je vais commencer avec toi, Lambert. Est-ce qu'on va être dans cette fameuse marche-là interminable vers les élections? Et là, je prends l'exemple de la question que j'ai posée à Nathan, où on va se reposer à chaque semaine, à chaque 2 semaines. François Legault, vas-tu rester? Y a-tu encore de la corruption au Parti libéral? L'équipe Éric Duhaime, es-tu solide? Québec solidaire, qu'est-ce qui arrive avec l'autre? On va-tu se reposer les mêmes questions toute l'année?
Oui, 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 absolument. On est en pré-campagne. Puis, rappelle-toi, le discours d'ouverture, le remaniement ministériel, la nouvelle stratégie économique du gouvernement. On est en période préélectorale depuis au moins le mois d'août dernier. Et ça va continuer. Pour rebondir sur ce que Nathan a dit, il y a beaucoup de gens, tu le sais, Jeff, j'ai encore certaines antennes. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode attente présentement. Je parle d'élus, évidemment, au sein du caucus. Là. Alors, c'est pas vrai de dire qu'ils sont tous à 100 % derrière leur chef, même que je n'ai jamais senti, moi, autant de gens à qui je parle qui sont vraiment là, en mode attente, qui sont là, qui sont plus visiblement d'accord avec la direction du parti et qui se demandent ben, c'est qui, justement, qui va se lever. Peut-être l'enjeu que je vois présentement, c'est qu'il y en a de plus en plus de ces élus-là qui se questionnent sur leur chef, mais ce ne sont pas les ténors du parti dont tu parlais, Jeff. Ce sont beaucoup des députés qui ont été élus en 2022 et qui regardent ça aller et qui se demandent justement, c'est peut-être pas ma place de me lever présentement parce que je dois essentiellement ma job à François Legault. Et ça, je pense qu'il faut toujours se le rappeler. La grande majorité de ces gens-là doivent leur job uniquement à François Legault. Mais là, ça va tellement mal et ils se demandent qui, justement, des ministres, qui des députés qui sont là depuis bien plus longtemps qu'eux vont se lever et dire à un moment donné, ça suffit. Alors, je ne sais vraiment pas ce qui va arriver avec M. Legault parce que la vérité, c'est que bien qu'il ait l'air tellement, tellement convaincu qu'il sera le chef de la CAQ en 2026, il n'y a pas le choix non plus de dire ça. T'sais. Il n'y a aucune autre réponse possible lorsqu'on lui pose cette question-là. Et si un jour il décide de quitter, ben on l'apprendra le matin même.
Oui, en effet. Comme on l'a appris le 6 janvier 2025 avec Justin Trudeau.
Exactement, exactement. Maintenant, est-ce qu'on aura, si tu commences à avoir le même type de scénario que Trudeau, c'est-à-dire lui, il avait perdu sa vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui avait quitté. Est-ce qu'il y aura un... Tu sais, il faut quand même se rappeler qu'il a perdu son ministre le plus populaire. Là. On dirait que ça... On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est arrivé juste avant les fêtes, là. Mais Christian Dubé, là, c'est toute une perte pour ce gouvernement-là et ça s'ajoute à tous les élus qui ont quitté en 2025. Lionel Carman, André Laforêt, Isabelle Poulet. Faisons la liste. Dernier petit point, Jeff, comment ça se fait que François Tremblay est encore dans ce caucus-là? Quand on parle de leadership, là, quand on parle de leadership...
On en parlait ce matin, moi et Max.
Mais voyons donc! Comment ce gars-là... C'est la deuxième fois qu'il se fait prendre pour alcool au volant. C'est pas... tu sais, je suis prêt à parier que le 99 % des gens qui m'écoutent présentement n'ont aucune idée c'est qui ce gars-là. Je m'excuse, là, mais si tu veux... T'es déjà dans une période difficile au niveau de ton leadership qui est remis en question. Il me semble que c'est un geste qui est évident, qui est facile. Je ne comprends pas comment ça qu'à 24 heures, depuis que cette nouvelle-là est sortie, ce gars-là est encore membre du caucus. Je ne comprends pas. Puis je demande la question aux gens à l'interne et je n'obtiens aucune réponse. Alors, je vous reviens là-dessus si à un moment donné, j'en souhaite.
Excellent. C'est étonnant. Tu sais, ben oui, c'est à étonnant. Une époque, en plus, où est-ce qu'on va probablement battre, si ce n'est déjà fait, un record de députés indépendants.
C'est ça, exactement. Il y a plus de députés indépendants que députés du PQ, là, en passant.
Oui, c'est ça, c'est vrai.
Ils sont à veille de faire un parti.
On a
le parti
ça.
Indépendantiste. Ah non, ça, c'est le PQ.
C'est ça qui est ironique. Le Parlement n'a jamais été aussi indépendant dans l'histoire du Québec, au final. Mais effectivement, c'est vrai que c'est très, très long, la réponse par rapport
ça n'a pas de sens.
Monsieur Tremblay.
Moi, ça aurait été OK. On suspend du caucus, on fait une enquête, puis il sort bail d'or après. Là,
une suspension, au moins, c'est la décision à prendre rapidement, ça. Facilement. Ben, il y a des gens qui ont été suspendus pour moins que ça, beaucoup plus rapidement que ça.
Clairement. Ouais. Farnell, je regarde avec le Parti libéral du Québec. Ça a été un mois de décembre, à partir de la mi-novembre, très difficile. L'épopée des Brownies, des Millefeuilles et de Pablo Rodriguez. Là, on veut tourner la page le plus rapidement possible avec une course à la chefferie. J'ai deux questions pour toi. Est-ce qu'on va assister au couronnement de Charles Milliard? Et est-ce que le PLQ va être capable, avec un nouveau chef, de garder le couvercle sa marmite pour pas trop que ça explose avec l'UPAC, leur enquête à l'interne, le commissaire à l'éthique, ainsi de suite?
Ben, à ta première question, est-ce qu'on va avoir une course à la chefferie? Moi, je le souhaite, parce que mm-hmm. je pense que, en général, peu importe le parti, peu importe la réalité, c'est toujours une meilleure chose pour la démocratie de donner un choix aux gens. Là, ce serait juste les membres du parti, mais quand même, ça fait brasser des idées, c'est une bonne chose. Ceci dit, le temps commence à presser, surtout s'il y a la possibilité, qui plane toujours, que François Legault démissionne quand une élection hâtive. Il faut que le parti soit prêt. Tu ne peux pas rentrer dans une élection précipitée sans chef. Alors, je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui joue dans l'arrière-plan de la tête de plusieurs personnes, dont peut-être plusieurs personnes qui seraient intéressées à se présenter, mais qui se disent « Ouais, mais tu sais, je ne veux quand même pas faire une course à chefferie. » Puis là, whoops, pendant la course à chefferie, on se fait couper l'herbe sous les pieds, on rentre en élection. Il y a peut-être beaucoup de gens qui pensent à ça. Par rapport à est-ce que le prochain ou la prochaine chef, on ne sait toujours pas, là, il pourrait y avoir d'autres candidats, va être capable de tourner la page là-dessus. Je veux dire, ma constatation est un peu différente, ce qui est que ce qu'on a vu avec les problèmes, les brownies, puis la corruption, puis je pense que le mot est bon, là, les gestes illégaux même, il y a des enquêtes criminelles qui se passent, étaient tous autour de la course à la chefferie d'un candidat à la chefferie qui l'a gagné. Ce qui permet potentiellement au Parti libéral, s'ils sont capables d'arriver avec un nouveau chef qui dit et qui est capable de convaincre les Québécois à dire « Moi, il n'y a rien de ça avec moi. J'arrive pas avec cette vieille façon de faire-là. J'arrive pas avec cette ancienne garde qui opérait de cette façon-là à une époque différente où les lois étaient différentes, les mœurs politiques étaient différentes. » Peut-être que ça va être capable de réellement donner l'impression et donner la confiance aux Québécois qu'on a tourné la page, mais il va falloir que le chef le fasse de façon très claire et surtout, il va falloir qu'il soit convaincant et que les bottines suivent les babines. C'est pas suffisant de dire « pour moi, c'est tolérance zéro ». Il va falloir qu'il y ait un réel changement dans les façons de faire, que ce soit visible, que ce soit clair et que les Québécois aient raison d'y croire.
Dernière question pour vous trois, pour finir sur le segment de débat Farnell-Morissette-Lambert-Drainville. La souveraineté oscille en pourcentage entre à peu près 27 et 35 % depuis plusieurs années au Québec. Quelles sont les chances que la présentation du livre bleu du PQ qui va se faire par étapes en cours d'année, qui va amener à l'élection du 5 octobre, amène un pourcentage qui va plus osciller aux alentours de 40 % pour la souveraineté du Québec? Lambert, je commence avec toi.
Moi, je pense qu'il y a quand même une conjoncture là, qui... Mais déjà, moi, le fait qu'il assume qu'il assume sa position sur le référendum.
Moi, j'adore ça.
Moi, je pense déjà que c'est un bon geste. Je veux dire, ce parti-là était dans le fin fond, certains le menaçaient de disparition. Et lui est arrivé et il a la même ligne depuis le jour 1. Alors, ça, je pense que c'est quelque chose de très bien pour lui. Et. Ils doivent effectivement se bâtir un plan. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement majeur comme projet de société que les Québécois doivent sentir que s'ils sont pour supporter cette option-là, que le plan est clair et que les gens en charge savent où est-ce qu'ils s'en vont. Alors, je trouve ça correct qu'ils épluchent leur livre bleu. Tu as quand même une conjoncture. Présentement, je pense que ça va pas bien au niveau, on parlait du coût de la vie plutôt aux États-Unis, mais c'est un peu la même chose ici. Les gens commencent à se demander, ben, ce serait-tu vraiment moins pire? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se demandent, est-ce que ce serait vraiment mm-hmm. moins pire d'être tout seul que si on était partie prenante de la Fédération canadienne? Présentement, je pense pas que ça change grand-chose. On n'a pas l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Là. Je veux dire, Carney a été élu avec une promesse de s'entendre avec Trump, c'est pas arrivé. Et il y aura les négociations de l'ACEUM cet été qui arrivent à échéance. La CEUM, ça nous sauve le cul solide présentement, messieurs. Là. C'est 85% de ce qu'on exporte aux États-Unis qui n'a pas de tarif dessus parce que à cause de cette entente-là. Et Dieu sait que lorsqu'on se rassoira à la table avec M. Trump, ce ne sera pas nous qui aurons le gros bout du bâton. On n'aura pas le choix de faire des concessions. Quelles seront-elles, ces concessions-là, si on finit par effectivement plier sur la gestion de l'offre, par exemple? Combiné à ça, il y a le jugement sur la loi 21 qui doit être prononcé au courant de la prochaine année. Il y a comme plusieurs éléments, je pense, qui peuvent faire bouger cette aiguille-là. Mais présentement, effectivement, on n'est pas dans le spectre du 50% plus un, loin de
Ouais.
là.
En effet, Farnell, penses-tu que l'aiguille va bouger positivement pour la souveraineté?
Je pense que malheureusement, la situation internationale va prendre le dessus sur notre situation nationale à nous. Je veux dire, j'imagine, je comprends, là, le livre bleu, c'est un bel exercice pour beaucoup de gens qui croient à l'idée d'une espèce de république québécoise indépendante séparée de la Fédération canadienne, mais la réalité, c'est qu'on fait face à la raison d'être elle-même du Canada. Le Canada a été formé pour contrer l'expansionnisme des États-Unis vers le nord, vers chez nous. C'est la raison que le Canada existe. Puis là, présentement, on a au sud un président des États-Unis qui dit « On peut rentrer dans un autre pays, enlever le président puis le mettre en prison. On voudrait bien annexer le Canada, 51e État. Le Groenland, on peut le prendre même par force militaire si on veut. Oui, il y a les renégociations de la ECUM, comme Lambert le dit, mais ça va être quoi les concessions du Canada? Moi, je pose la question. Je pense que les Québécois vont savoir, ça va être quoi les concessions obligées d'un Québec souverain par rapport à ce bloc de négociations-là? Est-ce qu'on est vraiment mieux dans l'énorme instabilité devant un président qui veut prendre l'Amérique du Nord et du Sud au complet comme si c'était son terrain de jeu, se dissocier de notre de l'État dont la raison d'être, c'est de se protéger contre cet expansionnisme-là? Je pense que la conjoncture interne aurait peut-être été intéressante si la conjoncture internationale n'était pas aussi instable, troublante et incertaine pour l'Amérique du Nord présentement.
Nathan, je t'ai vu faire des petits signes de oui quand Farnell parlait. Je pense que tu es pas mal du même avis.
Ben écoute, l'image que j'ai, c'est je suis vraiment du côté de Farnell par rapport à ça. Je pense que, comme Lambert le disait, l'exercice est intéressant. Je pense que le PQ peut continuer à faire l'exercice, continuer à rédiger des chapitres pour le livre bleu aussi. Mais de prendre cette décision-là, à ce moment-là, c'est se pencher la tête sur le bord de la banque. Mm-hmm. Au hockey actuellement. Ça serait, je pense, complètement irresponsable que de penser à se séparer dans un moment où, au contraire, il faut être uni au maximum encore plus avec ce qui a ouvert le débat aujourd'hui, les discussions qu'on a par rapport à l'administration Trump en ce moment. Je vais aller avec cette finale-là. Au contraire, je pense que ça serait irresponsable de prendre la décision de tenter de devenir souverain. Je pense qu'au moment où on se parle, c'est irresponsable d'avoir ces discussions-là.
Je vais redonner un petit droit de parole à Lambert Drainville. Là, je l'ai vu réagir. Vas-y donc.
Ben, tu sais, d'abord, ça, tu sais, si référendum il y a, ce ne sera pas avant 2030. Première chose, Donald Trump ne sera plus là en 2030. En tout cas, on se croise les
J'y pas, allais vers là, vers ce point-là. Vas-y.
Il est plus supposé être là. Puis, tu sais, il arrive quoi, là? Puis, l'autre affaire, messieurs, je vais vous la poser, la question. T'sais, qu'on soit membre de la Fédération canadienne, qu'on soit équipe Canada ou qu'on soit équipe Québec, si Trump et les Américains décident de débarquer là, avec leurs gros souliers, puis leurs grosses bottes, puis leurs tanks, là, on s'entend-tu que qu'on soit le Canada, qu'on soit le Québec ou bien qu'on soit rien que l'île de Montréal, on enlève le beau gros drapeau canadien de devant nos maisons, puis on met le drapeau américain, puis ça finit là, là. Moi, j'y crois pas en tout à ça, là, le fait qu'on soit le Canada, là, membre du Canada, là, ça va tellement nous aider à protéger notre souveraineté. Moi, je pense que si les Américains débarquent, qu'est-ce que tu veux, ils débarquent, puis on n'a pas grand-chose qu'on peut faire. Puis je pense pas que c'est à notre avantage d'entamer un conflit militaire avec eux autres, qu'on soit juste le Québec ou qu'on soit juste le Canada. Alors moi, je pense bien franchement qu'en termes de rapport de force, on n'en a pas dans les deux cas. Alors je me dis, à un certain point, tu sais, si les 4 prochaines années se passent comme la dernière, y a-tu une proportion de plus en plus grande de Québécois qui vont se dire, ben là, à un moment donné, tant qu'à ce qu'on soit pas capable de se payer une épicerie, pas capable de s'acheter une maison, pas capable de se défendre, on les a toutes essayées, les solutions. On les a toutes essayées, les autres. La seule qu'on n'a pas essayée, c'est de voter pour le oui. Ouais. Moi, à un moment donné, y a-tu. T'sais, ça va-tu aller tellement loin qu'en mode, on n'a plus rien à perdre? Et c'est à ce moment-là que, selon moi, un peuple ou un gouvernement est dangereux au maximum quand il n'y a plus rien à perdre. On a déjà parlé avec Farnell au niveau du gouvernement de la CAQ. Je ne sais pas ce que vous pensez là-dessus, messieurs.
Ben moi, je vais y aller avec la zone grise pour faire la zone tampon et terminer le tout. C'est que je pense que l'idée de la souveraineté va rester stagnante au Québec jusqu'au départ de Donald Trump. Parce que oui, les gens vont avoir en considération de se serrer les coudes et surtout de participer aux négociations de la CEOM pour essayer de ne pas perdre des acquis, comme exemple la gestion de l'offre. Et après ça, ça va dépendre comment le PQ va avoir géré les deux premières années au Québec pour voir s'il pourrait avoir une montée. Je trouve qu'il y a des gens fichument compétents au niveau politique au PQ, à commencer par Paul Saint-Pierre Plamondon, mais ici, dans la région de Québec, un Pascal Paradis m'impressionne énormément.
Effectivement.
Donc, je pense que le mandat du PQ va être scindé en deux. Par le fait que ces deux premières années, c'est Donald Trump qui va être le président des Américains. Puis les deux autres, ben si c'est J.D. Vance, on sera peut-être pas mieux. Puis si c'est quelqu'un d'autre, ben peut-être que ça va ouvrir la porte. Messieurs, je vous adore. C'est un segment vraiment très, très, très plaisant de questionnement et de débat politique. Merci beaucoup de votre participation, Lambert Drinville et Farnel Morisset.
Ça fait toujours plaisir.
Cool. Bon week-end, mes amis. Bon week-end, Lambert.
Merci, la gang.
On salut. Bon week-end. Bon week-end, Farnel Morisset. Nate, tu nous as trouvé une spécialiste en ressources humaines pour la suite de l'émission parce qu'on va reparler du sujet de l'heure de la semaine, c'est-à-dire le télétravail.
Oui, effectivement, Marie-Michèle Dugas qui va être au téléphone avec nous dans quelques instants parce que nous, on en a parlé hier dans l'émission du retour du côté de week-end. La messagerie texte a explosé. C'est effectivement un sujet qui fait énormément réagir. Puis on en parlait en préparant l'émission aussi. Il n'y a pas de demi-mesure.
Non.
C'est, les gens sont toutes pour ou toutes contre cette perte-là qui est devenue comme
un acquis.
Un acquis pour plusieurs alors que ça ne l'était pas nécessairement. Mais le télétravail chez la fonction publique qui finalement pourrait être réduit. On va voir si c'est le 26 janvier que c'est supposé rentrer en place officiellement, mais ça va être intéressant de parler avec une spécialiste de c'est quoi la place finalement du télétravail dans les dernières années, beaucoup depuis la pandémie, effectivement, ici au Québec, puis à quel point c'est devenu une condition de travail finalement. Pour
exactement,
pouvoir.
À quel point les employés y tiennent. Tu vois, nous, on a interviewé Christian Daigle, le président du syndicat de la fonction publique du Québec hier. Il nous expliquait pourquoi il allait en guerre contre le gouvernement avec ceci. Et c'est comme vous avez vécu à week-end. On a reçu, je te dirais, 70 % des textos qui disaient « Ils ont juste à retourner au travail, c'est ça la vie, puis ils ont juste à aller sur la route puis à vivre comme tout le monde. » Puis on a reçu un 30 % de textos de gens qui sont en télétravail qui ont dit « Hey, one minute, moi, je n'accepte pas d'aller faire deux heures dans le trafic. Touche pas à ça, j'accepte pas ça. Puis moi, j'accepte pas, je suis productif présentement à la maison. J'accepte pas qu'on me dise que je suis un fonctionnaire qui se pogne les fesses.
»
Fait qu'on va faire ce débat-là avec Marie-Michèle Dugas immédiatement après cette pause à On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. On en jase jusqu'à 4.